Donc, je crois qu'on va commencer avec où vous avez grandi et avec qui.
Bon, moi, je suis né dans le sud du pays, dans une préfecture qu'on appelle Zérékouré, le 8 juin 1954, où j'ai passé mes écoles primaires. C'est en 1965 que j'ai quitté le sud du pays pour la capitale, où j'ai passé le reste de mes études primaires, secondaires et le lycée. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat en 1973, où j'ai réussi avec mention assez bien. Et c'est ainsi que j'ai bénéficié d'une bourse d'études supérieures pour la République socialiste de Cuba. Et dans ce pays, j'ai passé 7 années d'études, une première année pour étudier l'espagnol et 6 ans d'études de médecine. Et suis rentré en Guinée en août 1980. Et là, j'ai commencé mon service dans la préfecture de Sigiri. Puis je suis revenu à Kankan, dans le nord de la Guinée, où j'ai passé 14 ans. Ensuite, j'ai eu une promotion où j'ai été inspecteur régional de la santé en 1994 dans la région de Mamou, puis dans la région de Boké. Et c'est en l'année 2000 où j'ai été nommé coordonnateur du programme LEPR. Et en 2008, on m'a chargé d'occuper le poste de chef de division de prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Et c'est en cette qualité que je me suis occupé de la surveillance épidémiologique dans l'ensemble du pays. Et à ce poste, j'ai géré près de 25 épidémies, et dont la dernière en date a été la maladie à virus Ebola, que j'ai gérée depuis de 2014 à 2016.
Wow. Et parlez-moi de le temps que vous avez fait en Cuba.
Bon, à Cuba, je suis arrivé tout jeune, j'avais 19 ans, en 1973, où on a fait les années d'études de la langue. Après, nous avons commencé la première année et j'ai eu de bonnes scolarités parce qu'à la fin, on m'a choisi comme le meilleur étudiant étranger, où mon nom est dans le journal de Cuba du 29 août 1980 que je détiens jusqu'à présent.
Et ils ont choisi quelques gens de Guinée, de tous les pays d'Afrique, ou c'était, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire les études en Cuba?
Bon, je suis arrivé parce qu'il y avait une coopération entre la Guinée et Cuba à l'époque, où les meilleurs étudiants ont été sélectionnés en Guinée pour les envoyer à Cuba. Donc, c'est vraiment ceux qui ont eu de très bons résultats au baccalauréat en Guinée en 1973 qui se sont rendus à Cuba à l'époque.
OK. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Cuba et votre expérience là-bas?
Bon, mon expérience a été très enrichissante parce que ils m'ont appris beaucoup de choses, surtout la médecine de campagne et l'esprit de sacrifice pour son pays, et qu'en toutes circonstances, on doit toujours mettre l'intérêt de la nation avant l'intérêt individuel. Et c'est cet amour collectif, surtout, qui m'a animé et qui m'a donné la force à oser attaquer même Ebola en restant en première ligne et pouvoir communiquer avec les gens et les rassurer au moment difficile qu'il fallait qu'on gardait notre sérénité pour affronter ce phénomène nouveau, puisqu'on puisse le convaincre. Et Cuba aussi, j'ai appris à rester très modeste et à m'adapter au niveau de vie de mes communautés et surtout aux us et coutumes, et avoir une bonne écoute des populations et les comprendre dans leur état de vie, selon leur niveau de vie, essayer d'apporter ce que je peux en fonction des moyens qu'on va m'offrir. Et surtout m'adapter en toutes circonstances, essayer de faire ce que je peux faire, même quand il y a assez de difficultés.
Et vous avez utilisé ça quand vous avez travaillé contre l'épidémie d'Ebola?
Donc, au moment de l'épidémie d'Ebola, j'ai eu ces réflexes de formation de l'enfance et qui me donnaient plus d'énergie à me maintenir, surtout à résister à la fatigue et au découragement, parce qu'on a eu des périodes d'insuccès et qui risquaient de nous démotiver. Chaque fois, je me pensais à ça, J'ai dit que je ne dois jamais me donner vaincu dans l'exercice de mon métier, que je dois savoir que c'est en restant persévérant que j'aurai la victoire.
Oui, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire juste avant l'épidémie d'Ebola?
Avant l'épidémie d'Ebola, il faut reconnaître qu'on a géré plusieurs épidémies de choléra. Donc, moi, personnellement, j'en ai géré 7 épidémies de choléra dans le pays et plusieurs épidémies de méningite. Donc, quand Ebola, on m'a dit qu'il s'agissait d'Ebola, j'ai fait la revue documentaire et je me suis rendu compte que c'était une maladie très dangereuse à laquelle on fait face. Donc, les premiers réflexes qui me sont venus, c'était de faire la promotion des mesures de prévention comme il s'agissait de choléra. Parce que les mesures de prévention s'intercoupaient. Donc, j'ai commencé à communiquer et à préparer mon personnel pour faire face à cette épidémie. Donc, nous avons fait des revues documentaires, des lectures collectives pour mieux connaître cette maladie et surtout ses mesures de prévention et comment communiquer les symptomatologies, les modes de transmission et de protection individuelle à l'intention de la population et même des autorités. Et organiser la lutte.
Donc, vous avez utilisé l'expérience que vous avez eue avec le choléra pour commencer la lutte contre l'Ebola.
Effectivement, ouais. C'était nos messages de départ. Il s'agissait de reprendre toutes les mesures de lutte contre le choléra, notamment l'assainissement, le lavage des mains et la potabilisation de l'eau. Et ne pas se serrer les mains, etc. Ça a été le premier message qu'on a copié dans l'expérience choléra, qu'on a diffusé pour se protéger aussi de Ebola.
Et vous avez décidé de faire ça parce que vous avez lu de Ebola ou comment est-ce que vous avez connecté les deux? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience en Afrique de l'Ouest avec l'Ebola avant ça.
Effectivement, on a bien lu des messages sur Ebola, mais comme on avait beaucoup plus d'expérience en choléra, on a vu que le mode de transmission y avait des similitudes. C'est pour cela que la population déjà connaissait le choléra et son mode de transmission et protection. Donc on a dit à la population qu'il fallait reprendre les mêmes mesures contre le choléra pour gagner en temps.
Et dites-moi comment vous avez appris sur l'épidémie avant de participer de ça?
Bon, ça a été un choc pour moi ce jour-là. Parce que j'ai été informé d'abord en mois de mars 2014 par l'inspecteur régional de la santé de Zérékouré, à laquelle appartient la préfecture de Guéguédou. Il y a eu deux décès successifs. Notre surveillant général de l'hôpital de Guéguédou, qui est venu décéder auprès de son neveu, le directeur de l'hôpital de Massanta, qui était un homme très connu. Et par suite de cette maladie, il y a eu une première investigation de la Direction régionale de la santé de ce sud du pays et qui m'ont envoyé le rapport qu'il s'agissait d'une maladie mystérieuse qui a causé assez de dégâts. C'est après cela que nous avons envoyé une équipe mixte composée de l'OMS, du ministère de la Santé et de Médecins sans frontières qui nous ont signalé l'ampleur du phénomène, qu'il y avait assez de cas qu'ils avaient dénombrés. Et les premiers échantillons nous ont parvenus le 18 mars qu'on a réussi à expédier en France, principalement à Lyon. Et le 21 mars, à 1h du matin, j'ai été informé par téléphone qu'il s'agissait bien d'Ebola. Mm. Mais nous, entre-temps, on avait fait la revue documentaire sur Internet. Donc les deux maladies qu'on craignait, c'était Lassa et Ebola. Mais à cause du nombre de taux de mortalité assez élevé, on pensait très peu à Lassa. On craignait beaucoup Ebola, mais on se demandait comment Ebola peut sauter l'Afrique centrale et tomber en Guinée qui n'a jamais connu Ebola. Ouais. Donc on était dans cette inquiétude et la nouvelle est tombée et ça m'a causé la nuit blanche durant le reste de la nuit du 21 mars.
Donc ça a pris combien de temps pour enlever le sang et puis arriver en France et puis les résultats sont sortis?
Bon, il faut compter, c'est parti le 18 et on a obtenu les premiers résultats le 21 mars. Donc à peu près 3 jours. Uh-huh. Mais par la suite, on a eu des difficultés d'expédition des autres échantillons parce qu'une compagnie aérienne ne voulait prendre des échantillons d'Ebola.
Ouais.
C'est ainsi qu'on a parlé avec l'OMS qui nous a transféré une partie du labo mobile de l'Institut Pasteur basé à Dakar, qui est le laboratoire de la sous-région, et qui est venu le 24 mars à Conakry. C'est ce qui nous a permis à confirmer par la suite les autres cas et les autres échantillons qui étaient en provenance de la zone de Guéguédou ou de la Guinée forestière.
Et après, vous avez reçu le résultat le 21 mars.
Oui.
Comment est-ce que vous êtes impliqué dans l'épidémie dans ce moment?
Bon, à partir du moment que moi, en tant que le premier responsable de la surveillance, donc j'ai informé mon ministre de la Santé dès la nuit là même, je l'ai téléphoné, et j'ai informé le président de notre comité national de crise sanitaire que j'ai reçu la nouvelle qu'il s'agissait bien d'Ebola et que le matin, il fallait qu'on se réunisse rapidement. C'est ainsi qu'on a pris la décision avec le gouvernement de faire la déclaration le 23 mars pour dire que la Guinée est en situation d'épidémie d'Ebola et solliciter aussi l'aide de la communauté nationale et internationale pour pouvoir juguler cette maladie.
Et quand vous avez entendu la nouvelle que c'était vraiment l'Ebola, qu'est-ce que vous avez pensé?
Bon, j'ai eu quand même un esprit assez d'un combattant. Je savais que j'avais affaire à une maladie très redoutable et que j'ignorais l'ennemi. Et je ne savais pas comment pouvoir circonscrire, mais j'avais la foi que toute chose qui commence finira un beau jour. Donc j'ai demandé à tous mes collaborateurs de vraiment serrer la ceinture, que c'est une lutte qui commence. On ne sait pas comment cet ennemi-là, on va l'abattre, mais qu'avec le courage, on pouvait venir à bout. Mais selon la revue documentaire, j'ai aussi constaté que la plupart des épidémies antérieures n'ont duré que 3 à 6 mois au maximum. Donc j'avais la foi qu'au bout de ces 6 mois au maximum, qu'on pourrait venir à bout de cette épidémie. Donc on a commencé, on a eu des succès par moment, mais c'était ne pas connaître tout le mode de transmission qu'il y a eu des faiblesses dans notre façon d'apprécier et d'évaluer nos stratégies. Et nous avons compris par la suite qu'à travers nos us et coutumes de traiter nos cas de mort et avec les cérémonies funèbres, et qu'au lieu que la maladie ne diminuait, apparemment, c'était en train de se propager dans d'autres préfectures où les gens se déplaçaient pour aller souhaiter des condoléances aux familles victimes. Et ce phénomène a aidé à la propagation. Donc, à la découverte de ça, on était obligé de revoir nos stratégies pour limiter non seulement les cérémonies funèbres, mais aussi les déplacements des contacts qui, désormais, étaient les moyens de transmission qui a fait qu'on n'a pas pu circonscrire Ebola dans les préfectures où ça a débuté.
Et vous pensez que c'était après combien de temps que vous avez découvert ça?
Ah, ça nous a pris 3 à 4 mois avant qu'on le découvre, parce qu'on a eu une baisse apparente vers le mois de juillet-août 2014. Alors, on était un peu sûr de nous qu'on allait arriver au bout. Bon, on a pensé que certaines préfectures étaient en période d'incubation par suite du fait que certains sont partis adresser leurs condoléances. Et on a constaté aussi que c'est les gens de Conakry qui sont partis pour les condoléances de notre médecin qu'à leur retour qu'on a eu les premiers cas d'Ebola à Conakry. Donc on se demandait comment retrouver tout ce monde qui vient adresser les condoléances, et etc., qui ont favorisé la diffusion de la maladie. Moi, j'étais le responsable de la surveillance à l'époque avec le Comité national de crise sanitaire. Chacun dans son domaine essaie d'être innovant pour que nous puissions mieux cerner ce phénomène de propagation.
Donc, vous avez déjà donné moi un résumé chronologique de votre travail en Guinée. Pensez au début, au milieu et les stades plus tard. Quel était votre rôle dans la réponse? Comment est-ce que ça a changé de début jusqu'à la fin?
Oui, mon rôle a changé d'ailleurs. Au début, je m'occupais de la commission surveillance. J'étais le président comme j'ai fait la surveillance, j'ai fait beaucoup de formations dans ce cadre. Mais après, quand on a vu que la réponse n'évoluait pas dans le sens d'atteinte de nos objectifs de contrôle de cette maladie. Le nombre de cas a cru, surtout vers fin d'année, le dernier trimestre de 2014. Donc, en prévision de ça, on a jugé utile de mettre en place la coordination de la lutte contre Ebola, non seulement pour mieux coordonner les interventions sur le terrain, mais pour mieux être réactif par rapport à la mise en œuvre des activités. Donc, le choix a pu porter sur ma personne pour diriger cette coordination et que j'ai accueilli avec plaisir et avec dévouement. Donc, ça a été le premier changement dans ma position dans cette lutte. Et en fin d'année 2014, j'ai fait un examen de l'évolution. Le pic de l'épidémie a été perçu par nous en novembre et décembre. Alors, je me suis posé la question, comment aborder l'année nouvelle 2015? Les stratégies classiques qu'on a apprises à partir de Accra, avec l'OMS et avec beaucoup de partenaires qui sont venus, j'ai vu qu'on tardait à avoir les résultats probants. Donc finalement, j'ai demandé au comité stratégique, il faut qu'on trouve un cadeau de nouvelles stratégies pour le contrôle de cette maladie à partir de janvier 2015. C'est ainsi que moi-même j'ai été inspiré par certaines initiatives que j'ai soumises au groupe stratégique pour qu'on puisse remobiliser cette population guinéenne qui était vers le bout d'être découragée et démotivée par l'insuccès qu'on était en train de récolter dans la lutte qui se traduisait par l'augmentation du nombre de cas et du nombre de préfectures infectées. Donc c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de réticences parce que les gens ne n'y croyaient plus. Il y avait des gens qui continuaient à mourir et le nombre de cas augmentait. Donc les conseils qu'on donnait aux gens, ils n'y croyaient pas et ils pensaient qu'on n'était pas en mesure de contrôler la maladie. C'est ainsi qu'à partir de janvier, nous avons commencé la campagne de zéro Ebola en 60 jours. Après une analyse que la plupart des préfectures ou les communautés nous ont accompagnées, Ebola n'a pas fait dépasser les 60 jours. Il y a eu des préfectures qu'on a contrôlées en 45 jours. Donc on s'est servi des slogans et des expériences qu'on a bénéficiées dans ces différentes localités pour dire aux autres localités qui étaient en épidémie que c'est possible de contrôler la maladie, mais s'ils nous accompagnaient et que les ressortissants viennent aussi aider les résidents de leur préfecture pour nous accompagner. C'est ainsi que de 27 localités réticentes où on était beaucoup, où la maladie était très active, on a pu réduire en 60 jours à 4 localités. Et après, il y a la vaccination qui est venue s'ajouter à nos efforts. On a mené des campagnes de ratissage et on s'est vu qu'à partir du mois de février-mars, les chiffres d'Ebola tombaient et on arrivait à contrôler des préfectures les unes derrière les autres. Ça nous a donné beaucoup d'espoir et malgré tout ça, on continuait à avoir quelques foyers où il y avait de la persistance de la maladie et ça nous a amené à de nouvelles innovations telles que le cerclage qu'on a fait dans les petites localités et le micro-cerclage dans les grandes villes. Et ceci nous a beaucoup aidé à accélérer le contrôle dans ces différentes localités.
Donc, c'est la campagne de zéro Ebola dans 60 jours. C'est comme un point tournant.
Ça a été le tournant décisif de faire baisser la courbe d'évolution de l'Ebola en Guinée parce que ça a permis de réduire les réticences et de commencer à avoir l'engagement communautaire et toute la société civile, les leaders religieux, les organisations sociales, les associations de développement se sont mobilisés. On a su que si on ne faisait pas un sursaut national, et on risquait d'avoir beaucoup de dommages, non seulement beaucoup de morts, ça allait vraiment impacter sur notre économie et même les déplacements des Guinéens. Et on faisait l'objet de stigmatisation dans la sous-région et partout ailleurs. Donc ça nécessitait une remobilisation de la population guinéenne pour pouvoir contrecarrer ce phénomène qui était grandissant et pour que chacun sache que la vie collective était menacée et qu'on devait agir de façon synergique pour contrôler Ebola.
Et dans toute l'épidémie, est-ce qu'il y avait d'autres tournants que si c'est ici les bons et les mauvais. Il y a d'autres tournants que vous pouvez rappeler?
Bon, il y a eu des tournants positifs et des tournants moins ou bien négatifs.
Oui.
Donc, le premier tournant négatif qu'on a eu, C'est au moment où il y a eu le sommet de la réticence, ce jour-là m'a fait couler des larmes quand j'ai vu une équipe, une de mes équipes de sensibilisation dans une sous-préfecture qui ont été agressées par les populations et ils ont été tués par les populations qui les ont agressées. Et ce jour-là, on a perdu 8 personnes. Ça a été l'un des revers de notre stratégie de communication et de sensibilisation. Ça a été le plus grand sommet. Et par la suite, on a eu des incidents similaires où on a brûlé même des ambulances, où certaines de nos équipes ont été agressées et même ligotées par les populations. Ce qui nous ramenait à changer nos stratégies de communication pour un peu réduire la méfiance des populations et obtenir une meilleure adhésion des populations. Ça a été le point noir et où on a perdu aussi près de 115 personnes sur le front de cette lutte de façon successive. Il y a eu des moments où pratiquement toutes les semaines, on avait des agents infectés. Mm-hmm. Ça a été vraiment le point noir. Moi-même, j'ai eu à faire des actes parfois sans le savoir, très risqués pour ma vie. Mais qu'à cela ne tienne, on a pu résister à ces périodes noires. Les moments de joie, c'est que chaque fois qu'on a réussi à contrôler la maladie dans une localité et qu'on a accepté le cerclage, on terminait par une fête et des bénédictions et qu'on partageait ces moments de gloire avec la population. Et le moment très décisif aussi, c'était l'acceptation de la vaccination. Ce jour-là, on a pris du temps, près d'un mois, pour convaincre les uns et les autres d'accepter d'essayer ce vaccin Merck en Guinée. Et beaucoup de gens étaient contre parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et ce vaccin n'avait jamais été essayé à large échelle dans le monde. Donc ça a été une décision très difficile pour les autorités guinéennes et moi-même qu'on puisse les accepter. Donc ce jour-là, j'étais placé devant ma conscience et mon engagement en tant que technicien pour prouver à la population que ce vaccin pouvait nous servir à quelque chose. Et ça a été difficile pour moi, au niveau individuel, de m'offrir en tant que premier candidat à recevoir ce vaccin en Guinée pour montrer l'exemple à la population que mon engagement est sincère, ça vient du cœur et que je veux que ce vaccin-là soit essayé sur moi s'il y a des dangers. Je suis prêt à l'affronter, mais je veux me sacrifier pour qu'on trouve un remède, non seulement pour arrêter cette épidémie, mais pour les épidémies futures pour la Guinée et le reste de la communauté internationale. Ça a été un moment très pathétique et qui a fait couler des larmes aux gens qui m'ont vu à la télé occuper une telle position face à un tournant de l'histoire dans cette maladie.
Et ça, c'était votre idée d'avoir le vaccin d'abord ou ça...
Au début, ce n'était pas moi personnellement qui devais le faire. Mais en tant que premier responsable, j'ai cru qu'en le faisant, il y aura beaucoup qui allaient m'accompagner. Et c'est ce qui fut fait. Et depuis que j'ai accepté, beaucoup m'ont accompagné. On n'a pas eu de difficulté à convaincre les gens jusqu'à ce qu'on a fini de vacciner tous les contacts dangereux de mon pays, ce qui nous a aidé à contrôler la maladie.
Parlez-moi de le plus grand choix que vous avez fait dans la réponse.
Bon, il y a eu quelques moments où j'étais content des choix stratégiques. Premièrement, le choix de mettre en place une cellule de coordination a été une bonne décision des autorités et des partenaires qui ont suggéré cette unité. Et dont figure le docteur professeur Frieden et le docteur David Navarro, plus la coopération française à travers l'ambassade, qui ont vraiment agi avec Médecins Sans Frontières pour qu'on mette en place une cellule de coordination pour accélérer l'exécution de nos activités sur le terrain et une meilleure coordination des interventions. Et deuxièmement, le fait qu'à un moment déterminé, on a trouvé que les stratégies classiques ne pouvaient pas nous conduire au contrôle de cette maladie et on a mis en place un groupe stratégique et qui réfléchissait pour améliorer et écouter les difficultés qu'on avait et faire des nouveaux choix stratégiques. Et cela a été très utile. C'est ainsi que, de façon successive, on a amélioré le suivi des contacts. On a fait la campagne de zéro Ebola, la campagne de ratissage. On a fait le cerclage et tout dernièrement la surveillance active en ceinture. Donc ces stratégies nous ont permis de mieux cerner la problématique d'Ebola et baisser les craintes au niveau de la population et éteindre les foyers les uns derrière les autres.
Je vais vous demander de votre travail avec CDC. Expliquez votre relation de travail avec le CDC à travers le temps, en notant quand et où la relation a changé.
Donc, ma connaissance d'abord avec CDC, ça a commencé de façon très profonde avec la survenue de l'épidémie Ebola. J'ai très sincèrement apprécié l'arrivée du professeur Pierre Rollin, qui est arrivé pour la première fois dans cette épidémie à un moment de panique totale. Tout le monde avait peur. Personnellement, j'avais des difficultés à calmer le stress et la peur des populations face à l'évolution de la maladie dans le sud du pays. Les autorités n'y croyaient pas et nos communications n'étaient pas assez convaincantes. Et donc, quand il est venu avec son autorité, il a établi de bons rapports avec la première personnalité de notre pays, avec les membres du gouvernement, les leaders religieux, et il a communiqué avec sa connaissance de cette épidémie sur les épidémies antérieures. Ça a permis de donner plus d'informations et rassurer les populations, et sa présence a permis d'être très rassurant pour les autorités et la population et leur donner l'espoir qu'on peut vaincre cette maladie et que nous pouvons garder notre espoir. Donc, c'est après que nous avons collaboré dans le sens de la gestion des données. Ils nous ont aidés à mieux filtrer nos données, à collecter les données, et faire les publications avec l'appui de l'OMS et organiser aussi les points d'entrée et pour empêcher nos contacts de sortir hors du pays. Donc, petit à petit, avec les différentes équipes de CDC et qui sont venues, nous ont aidé aussi à organiser le travail à la coordination et même faire le schéma fonctionnel. Donc, c'est avec ça qu'on a été de plus en plus performants et nos relations se sont solidifiées avec CDC au fil du temps.
Donc, quand vous pensez de votre travail avec CDC, quels souvenirs viennent à vous?
Bon, mon travail, le bon souvenir d'abord, c'est que c'est comme quelqu'un qui se sentait en danger. Et je prenais l'exemple d'une noyade et que quelqu'un est venu te tirer la main pour que vous puissiez voir le bon chemin et regagner les rives. Donc pour nous, je peux dire que CDC a eu des actions salvatrices en Guinée qui nous ont sauvés à des moments très difficiles sur tous les plans de la lutte contre cette épidémie. Donc, ils en soient vivement remerciés pour cet appui humanitaire apporté à mon pays, que nous comptons poursuivre avec eux. Comme je le disais, l'enfant a commencé à marcher, mais ses pieds ne sont pas encore bien résistants pour courir. Donc, CDC doit nous aider à ce qu'on puisse supporter les courses de 100 mètres.
Donc, où est-ce que vous pensez le CDC à vous aider bien?
Donc, CDC, son intervention, il y a deux points que je retiens. Premièrement, en matière de communication, ça nous a beaucoup aidé à baisser le niveau de stress dans le pays. Ils nous ont aidé à faire de bonnes communications, à mieux connaître la maladie et calmer la population qui était vraiment stressée. Le deuxième, c'est dans la surveillance et le contrôle des points d'entrée, le suivi des contacts et la gestion des données ont été des points forts de l'intervention de CDC en Guinée.
Vous pensez qu'il y a les points où le CDC était absent?
Bon, c'est surtout le point d'absence que j'ai noté, c'était dans la prise en charge. Et là, je pensais que ce n'était pas leur domaine de prédilection. Et la prise en charge, j'ai préféré laisser ça aux ONG Médecins Sans Frontières, Alima et la Croix-Rouge française qui j'étais. Fondamentalement intervenu. Mais par contre, dans la prise en charge, Ils ont intervenu à un moment donné dans la prévention et contrôle des infections. On a eu à tenir des meetings avec le professeur Pierre Rollin et animer beaucoup de séances à l'intention du personnel qui continuait à s'infecter avec ce virus. Et on a eu beaucoup de séances de ce genre pour mieux sensibiliser le personnel, à les amener à développer ces mesures de prévention dans les établissements de soins.
Oui, ça c'est une question que le but de CDC n'est pas de prendre en charge les choses, c'est pour supporter les gouvernements et les ONG.
Ouais.
Donc, selon vous, vous pensez que peut-être ça c'est quelque chose qui était un peu difficile en Guinée?
Oui, ça a été difficile, mais moi je pense que dans l'avenir, comme nous on est dans l'agence et on a un département de prise en charge, je pense que c'est mieux de s'intéresser à la prise en charge parce que, et comme l'OMS, le protocole de prise en charge des maladies à potentiel épidémique, on doit continuer à le diffuser. Je pense que CDC contient beaucoup de scientifiques qui peuvent nous aider à améliorer nos protocoles de prise en charge dans le cadre de la formation et de la capacitation du personnel qui y se trouve. On a eu beaucoup de difficultés à former certains à l'immersion dans le centre de traitement, tel que le contingent cubain qui est venu. Et on avait que Médecins sans frontières, leur capacité de formation était très lente. Donc on a mis 2 mois de préparation pour l'équipe. Donc si on avait des unités comme ça préparées, on pouvait réduire le temps et avoir une bonne capacité de prise en charge et réduire le transfert des malades d'une localité à une autre. Et ce transfert nous a été des périodes très tristes où on a perdu souvent certains malades le long du transfert de 500 à 600 km sur des routes très difficiles avec 6 heures à 7 heures de voyage. Je pense que s'intéresser à ça peut nous aider à la longue à faire des formations très rapides et préparer les gens à la prise en charge.
Est-ce qu'il y avait des fois quand vous n'étiez pas d'accord avec les recommandations ou les actions de CDC?
Bon, il y a eu quelques peu de temps quand même que on a eu des avis contraires, je le dirais ainsi, surtout au moment de la gestion des données. Ils nous avaient proposé des logiciels. Bon, ça a changé un peu notre habitude. On a eu beaucoup de discussions, notamment avec le professeur Pierre Rollin, pour pouvoir adapter notre façon de gérer et aux nouvelles stratégies qu'ils nous proposaient. Et même avec l'OMS, et on avait eu souvent certaines contradictions et pour certaines approches qu'ils nous proposaient, que nous, on ne le percevait pas ainsi. Et parfois, on faisait certaines demandes qu'on n'avait pas eu l'écho favorable auprès de CDC ou bien de l'OMS. Mais mon dernier point de désaccord ou de non-satisfaction, c'était quand j'avais proposé à CDC et à l'OMS la stratégie de surveillance active en ceinture. Et après lecture du risque de survenue de résurgence à partir des personnes survivante d'Ebola. Alors j'ai décrit cette stratégie que je les avais proposée, mais ils m'ont dit que le risque était un peu très marginal, que ça allait entraîner beaucoup de coûts, et ils pensent que ce n'était pas nécessaire. Donc quand c'est arrivé, j'ai appelé CDC et l'OMS, j'ai dit voilà, je vous avais dit que de faire ça, c'est après ça qu'ils ont tous approuvé la stratégie, ils m'ont soutenu, on a mobilisé des fonds. Et on a pu faire la stratégie. On a même découvert d'autres cas qui auraient dû faire des flambées, mais qu'on a pu maîtriser dans l'œuf. Et j'étais très content qu'on ait revenu sur leur décision de ce genre. Donc, c'était des moments parfois qui passaient entre nous. Comme on est en groupe, parfois on n'est pas tenu d'être d'accord. Mais l'essentiel, c'est de se reconsidérer sa position pour voir ce que l'épidémiologie exige et surtout aller dans le sens de réduction du risque et de contrôle de la maladie.
Décrire certaines des personnes qui n'ont pas travaillé pour le CDC. mais avec qui vous avez travaillé, comme le personnel du ministère de la Santé, organisations gouvernementales, le bureau du président Alpha Condé et le président lui-même, l'Organisation mondiale de la Santé, le Médecins sans frontières, les autres ONG, les hôpitaux et les cliniques. Comment est-ce que toutes les organisations étaient travaillées avec vous?
Bon, il faut reconnaître qu'en tout, on a eu 65 partenaires qui sont intervenus dans cette riposte, certains dans des domaines variés, d'autres parties d'expertise technique, d'autres ont donné des intrants, des matériels, des équipements et des médicaments, d'autres ont donné de l'argent, d'autres des moyens de locomotion, de la logistique, d'autres ont fait la formation. Il y a des personnes volontaires qui nous ont aidés dans la sensibilisation des communautés et d'autres même sont intervenus sur le plan d'arrêt alimentaire. Il ne faut pas le négliger, PAM nous a aidés à faire ça. D'autres ont fait des puits de forage pour améliorer le cadre de vie et même pouvoir appliquer les mesures d'hygiène dans certaines communautés qui n'avaient pas l'accès à l'eau, etc. Donc tous ces 65 nous ont aidés. Mais tout cela a été rendu possible et personnellement, mes actions ont été rendues possibles grâce à l'appui personnel du chef de l'État, le président Alpha Condé. À un moment déterminé, j'ai fui l'objet d'attaques de beaucoup d'ONG qui ne voyaient pas dans le même sens que moi et dont le coût de sensibilisation devenait de plus en plus important. Et j'avais des difficultés de coordonner toutes ces interventions. Et donc, et la maladie aussi progressait. Et à un moment donné, le président a pris le leadership et de la coordination des interventions. Je devais lui rendre compte des événements tous les jours, matin et soir. Et trois fois dans la semaine, on devait venir avec les experts lui rendre compte des nouvelles stratégies de ce qu'on pense. Et donc, voyant cette détermination et de leadership du président, cela a été vraiment un facteur qui m'a permis à coordonner les interventions techniques des différents partenaires qui n'avaient pas les mêmes lectures de la situation, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde s'en tenait au consensus. Et chacun dans son domaine, à un moment déterminé, comme en pleine guerre, tout le monde apporte sa contribution. Et finalement, il y a eu une certaine synergie d'action qui nous ont conduit vers le contrôle de la maladie.
Parlez-moi de quelques interactions que vous avez eues avec les personnes qui étaient infectées avec le virus Ebola ou avec leur famille ou leurs amis.
Bon, j'ai eu des interactions parce que j'avais beaucoup de connaissances envers certaines familles qui, sur le plan social, ça nous a fait beaucoup mal au cœur. J'ai eu des amis, j'ai eu des connaissances qui ont perdu le bras fort de la famille, c'est-à-dire le pilier qui donnait de la nourriture, les ressources à la famille qui sont partis. Donc ça m'a fait pousser l'esprit de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles victimes d'Ebola. Ça a été le début d'enclencher d'autres stratégies envers le soutien à cette famille. Donc on a mis en priorité les familles de nos personnels de santé qui ont été victimes. C'est ainsi qu'avec des négociations avec certains partenaires tels que la Banque mondiale qui m'ont autorisé, on a trouvé un financement de $10,000 par famille victime du personnel et qui a beaucoup soulagé ces familles-là qui venaient de perdre la source de revenus qui leur faisait ça. Cela a beaucoup soulagé certaines de mes souffrances avec les familles des victimes. Et aussi, j'ai vu des familles où il y avait des problèmes d'éducation, des orphelins qu'on en avait. On a touché bien sûr l'UNICEF avec d'autres associations qui ont pris plus de 6 000 et quelques orphelins, leur scolarité, etc. et aidé ces familles et avec PAM aussi qui était là pour donner de l'alimentation avec ces familles-là qui étaient très déshéritées. Et j'étais obligé de m'investir dans tout ça pour pouvoir coordonner ces différentes actions sociales envers leurs familles. Et la dernière stratégie, nous l'avons inclue dans la surveillance active en ceinture. car l'un des aspects qui a favorisé l'adhésion des sorties guéries, c'est le soutien à leurs familles que nous faisons à travers l'alimentation, à travers le soutien financier, et qui a fait qu'on a pu obtenir et leur dire que nous partageons leurs douleurs, nous sommes prêts à les accompagner, mais aussi, en contrepartie, ils doivent nous donner des informations sur leur état de santé, de leur famille et de leur entourage, afin qu'on ne soit plus surpris par des événements comme du genre de Koropara dans le sud du pays. Donc voilà un peu, je continue à travailler avec tous les sorties guéries, et ils ont mon numéro de téléphone, il y en a qui m'appellent pour des problèmes, et je donne des orientations pour les soulager, etc. etc.
Ça, c'est bon. Donc, si vous pouvez nous expliquer votre relation avec votre femme et sa rôle.
Voilà.
Oui.
Voilà, bon, vraiment, vous me donnez l'occasion de remercier mon épouse qui m'a vraiment soutenu à la maison. Parce que mon rythme de travail était tellement intense pendant Ebola. Premièrement, je me lève tous les jours à 5 heures du matin pour être au travail entre 7 heures et 8 heures et je rentre tard la nuit. Donc, nul était son soutien de faire tous les travaux derrière moi que je n'arrive pas à faire à la maison et aussi son soutien parce que j'ai eu des périodes de découragement.
Mm-hmm.
Et chaque fois que la maladie faisait des rebondissements, je voyais l'insuccès de ma maladie et le stress parfois des autorités, etc. Et ça m'amenait à des moments le sentiment de jeter de l'éponge. Et donc, elle venait, elle sentait en moi des périodes de démotivation. Elle me demandait de prendre courage, que les gens me font confiance. Le président m'a pris comme le leader, le premier qui doit s'investir dans ça, de tout faire pour pouvoir honorer cette confiance. Donc, elle supportait mes rentrées tardives la nuit. Elle supportait les milliers de voyages que j'ai effectués à l'intérieur du pays. Et parfois, elle se levait à 4 heures du matin pour faire des sandwichs parce que parfois, on sortait.
Ouais.
On ne savait pas où on pouvait trouver à manger. Et d'ailleurs, on évitait de manger pendant nos sorties pour le risque avec les salutations, qu'on ait des comportements à risque qui puissent nous contaminer. Donc, elle préparait toujours mes sandwichs et que je voyageais avec et que je mangeais au moment opportun. Et pour cela, je la dois beaucoup et à l'énergie que j'ai eue pour supporter les 2 années et demie sans congé, sans repos pratiquement, que je pouvais le faire grâce à ce soutien moral et continuer à éduquer mes enfants et leur dire que papa, parfois même, mes enfants me disaient « Sakuma, pourquoi tu continues à faire de tel travail, tu es fatigué, il faut te reposer. » Mais je ne pouvais pas me reposer et laisser des hommes en train de mourir qui ont besoin de mes services.
Mm-hmm.
Donc grâce à son soutien moral, j'ai pu résister jusqu'à présent. Donc je profite de remercier CDC pour m'avoir donné l'opportunité d'entamer cette visite aux États-Unis en compagnie de mon épouse. Vraiment, ça a été vraiment une très grande allégresse et une joie au cœur pour moi.
Et vous avez combien d'enfants?
J'ai 4 enfants.
4 enfants. Ouais. Quel âge?
Ah, le dernier a 18 ans.
OK. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre rôle?
Bon, mes enfants quand même sont très enchantés par le rôle et tous les témoignages qu'on est en train de faire pour mon effort. Et je leur dis toujours que c'est un exemple que je leur donne de sacrifice pour son pays. Et je pense qu'ils vont se servir de mon exemple pour faire mieux que moi pour la Guinée et même pour la communauté internationale.
Et elle a dit au début que vous avez dit que vous avez changé, que le docteur Sakuba au début de l'épidémie n'est pas le même que le docteur Sakuba qui est là maintenant. Donc vous pouvez expliquer ça un peu?
Bon, je disais que le docteur Sakuba avant Ebola n'est plus le docteur Sakuba aujourd'hui. Mes raisons sont que avant, je ne connaissais pas Ebola. Je ne maîtrisais pas qu'est-ce que c'est qu'une cellule de coordination. Moins encore, un centre d'opération d'urgence. Comment tout ça, ça peut fonctionner pour cela. Donc, pendant Ebola, non seulement j'ai lu beaucoup, et avec les interactions avec les différents experts de tous horizons que j'ai eus, du nord au sud, africain, européen et partout. J'ai beaucoup écouté. J'ai vu que le monde est pluriel, les façons de faire. Ça m'a aidé à faire une synthèse et surtout avoir une expérience de coordonner des actions de divers horizons pour qu'on puisse obtenir des résultats communs. Donc c'est pour cela que les éloges qu'on me fait actuellement, j'ai toujours dit que c'est là, c'est le Sakoba construit par vous tous qui avez passé à côté de moi. J'ai eu plus de 10 conseillers. La majorité est venue de la France et certains de chez vous. J'en ai eu, je crois, 6. Pierre Rollin, Benjamin Dao, Michael et Lise. Donc, j'ai eu plein de conseillers américains, français, russes, et des pays africains, le Congo, etc., de l'Union africaine, de la CEDEAO. Tout ceci me donnait des conseils. Et moi, je crois que les conseils, pour moi, c'est comme une formation. Mmh. Et tu dois les prendre en compte. Et tout ceci m'a aidé à construire l'image que j'aime maintenant. C'est pour cela que j'aime dire que ce n'est pas le Sakoba avant Ebola que vous le voyez. C'est le Sakoba que vous avez formé. Et grâce à vos conseils, grâce aux actions qu'on a menées ensemble et qui a bénéficié de toutes ces expériences et que vous avez en présence au jour d'aujourd'hui.
Et il y avait le changement personnellement aussi?
Oui, il y a eu des changements dans ma personnalité. Il y a eu des moments où j'avais des crises de nerfs dues à la fatigue, dues au fait parfois j'ai eu des partenaires qui, entre griffes, avaient certaines arrogances. Parce qu'ils avaient des conceptions, c'était à prendre ou à laisser, mais pas à amender. Alors, je me sentais un peu frustré par ces méthodes d'action où on ne peut pas amender des projets qu'on nous présentait. Et moi, j'ai beaucoup accepté certains partenaires qui avaient de la flexibilité dans l'orientation de leurs projets et dans l'adaptation de leurs projets par rapport aux réalités que nous vivons. Alors, quand je voyais certains qui, parfois, étaient, ils me disent « Non, Sakoba, c'est comme ça ou non ?» où on bloque le matériel. Alors cela me faisait naître des sentiments de frustration. Il y a eu des périodes de crise. Et chaque fois que ça m'arrivait, je me rappelais quand même des conseils de socio-anthropologues. Écoutez les gens. Après, réduisez le nombre d'interlocuteurs et organisez des tête-à-tête avec moins de doses d'adrénaline qu'on parvenait toujours à trouver un chemin d'entente. Donc j'ai appliqué cette technique chaque fois que j'avais des points de vue contraires avec des partenaires ou des groupes d'associations. Je tenais à ce qu'on se revoie en tête à tête, essayer de voir les points de blocage entre nous et les points communs. Ainsi, on essaie d'argument contre argument et trouver un terrain d'entente. Donc cet exercice m'a aidé à changer un peu ma personnalité parfois de dirigiste, mais d'accepter parfois aussi que je n'avais pas raison et que je devais aller sur le chemin qu'on me proposait. Donc cet exercice m'a aidé à me construire au fil du temps.
Et qu'est-ce que vous avez fait après la fin de l'épidémie?
Bon, la fin de l'épidémie, pour moi actuellement, constitue la fin d'une étape. Parce que chez moi, en Guinée, on gère une épidémie derrière une autre. Parce qu'il faut reconnaître que les épidémies, dans ma tête, c'est un problème de développement et de, et de changement.
Yellow.
Voilà. Et de changement de l'environnement qui crée des nouvelles pathologies. Donc, je pense qu'on doit continuer à se préparer pour faire face à de nouvelles étapes. D'abord, maîtriser les épidémies qui sont récurrentes dans mon pays, mais aussi se préparer à une maladie inconnue qui pourrait arriver un beau jour. Donc, les acquis qu'on a eus pendant Ebola, qui sont immenses, nous pensons les consolider et les renforcer avec les partenaires pour que la Guinée soit plus forte désormais et qu'on puisse endiguer dans l'œuf toute nouvelle résurgence d'une maladie inconnue dans notre pays et maîtriser aussi les épidémies de rougeole et de méningite qui sont plus fréquentes dans nos pays.
Donc, je crois c'est l'heure. Donc, il y a d'autres questions que vous pensez c'est important de vous demander ou il y a d'autres choses que vous voulez dire?
Bon, pratiquement, j'ai fait le tour d'horizon. Vous savez, Ebola aussi m'a rendu très bavard là, parce que j'ai vécu tellement de choses et parfois, quand on m'interroge comme ça, je dis où commencer, où m'arrêter. Donc, je pense que j'ai dit déjà l'essentiel. Je dois pouvoir conclure cette interview qui m'a fait susciter le désir de vivre ensemble. Le partenariat qui a été développé pendant cette riposte a protégé non seulement la Guinée et les trois pays, mais aussi la communauté internationale. Avec les mouvements des hommes, qui était très difficile de fermer toutes nos frontières, si Ebola, on ne l'avait pas contré de cette manière, avec la peur, quoi qu'on fassait, les Guinéens allaient immigrer ailleurs et entraîner d'autres vagues dans d'autres pays. Mais la réaction de la communauté internationale, dans tous les sens, m'ont fait dire qu'on peut espérer qu'en cas de détresse, nous pouvons compter sur vous tous pour pouvoir maîtriser. Et je pense que cet esprit humanitaire qui est déjà né dans d'autres circonstances pour d'autres pays que la Guinée a vécu doit être cultivé et entretenu par nous tous. Et que nous aussi, qu'on puisse apporter notre contribution à contrôler d'autres événements dans d'autres pays. Donc c'est pour vous dire que moi qui suis en face de vous, je suis prêt à apporter mon expérience à d'autres pays en situation de détresse pour que je puisse continuer à aider cette communauté internationale à réduire nos souffrances en période de crise, surtout sur le plan épidémiologique. Donc je suis très content qu'on m'ait donné cette opportunité de visiter le siège de CDC. J'ai beaucoup appris pendant ce séjour. Je suis en train de voir beaucoup d'opportunités de collaboration avec les différentes sections de CDC, départements, pour qu'on puisse renforcer les capacités en Guinée. Et je pense qu'il ne se compare pas à un leader, tu ne pourras pas progresser. J'ai appris dans un livre américain la clé de la réussite. Le premier point, c'est d'avoir un projet de réussite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Le deuxième, c'est de chercher un leader, quelqu'un qui a réussi, que tu admires. Donc pour moi, ce pays que je vois sur le chemin de la réussite, qui a passé par des chemins pas faciles, constitue mon miroir désormais. Donc, je dois savoir comment il a parcouru, comment je peux me préparer à ses difficultés. Je sais qu'avec les nouvelles technologies, je ne parcourrai pas tout le chemin. Je pourrais sauter de temps en temps. Mais même si je ne l'atteins pas, je pourrais être proche de lui pour pouvoir transférer et donner les mêmes sentiments d'aisance et d'amélioration du niveau de vie sur le plan sanitaire de ma population. Donc, je terminerai pour vous dire que je suis venu pour vous écouter, pour voir, pour entendre, afin que je puisse trouver les voies et moyens pour renforcer le système sanitaire dans mon pays et qu'enfin, que je puisse contribuer au contrôle de toutes les maladies à potentiel épidémique dans mon pays et les situations d'urgence. Je vous remercie infiniment.
Merci. Nous voudrions vous remercier aussi. C'est vraiment, c'était bon de travailler avec vous et collaborer en Guinée. Et j'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble.
Merci. Merci. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.